Perle à rebours, je reçois avec les complicités de Yann Le Tailleron, Alice Bonamy et Laurent Messager, deux éminents et émérites professeurs de sociologie à l'Université de Nantes, Charles Suot et Jean-Michel Faure. Nos invités viennent nous présenter La raison des sports, sociologie d'une pratique universelle et singulière, un livre paru aux éditions Raison d'agir. Juste pour, non pas faire connaissance, mais nous rappeler nos bons vieux souvenirs, Jean-Michel et Charles, vous êtes de grands spécialistes de la sociologie du sport. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser, un, à cette discipline et deux, à ce domaine particulier? Charles?
Moi, alors des raisons très particulières qui n'ont rien à voir avec le sport, si je puis dire. Parce que mes premiers objets étaient en sociologie de la religion et qui plus est en sociologie de la vocation des prêtres. C'est-à-dire que je me suis intéressé à la question simple, comment devient-on prêtre et comment forme-t-on des prêtres? Ce qui m'a amené à l'époque, dans les années... Donc formation dans les années 60, donc formation des petits séminaires. Mais a priori, on pouvait penser former un prêtre, c'est former mentalement, spirituellement, etc. Très bien. Mais la première découverte, la découverte la plus importante, ça a été que le premier objet de pédagogie de cette formation, c'était le corps. Donc l'idée que pour former, comme dirait Weber, des virtuoses spirituelles, on passe par le corps. Et par jeu, j'irais intellectuel, je me dis, et si j'inversais? Comment, pour devenir des virtuoses du corps sportif, peut-être qu'il y a tout un travail mental, je dirais presque spirituel, au sens de catégorie mentale, à faire pour parvenir. Donc voilà, moi ça a été, je suis passé d'un terrain à l'autre en me posant quasiment les mêmes questions. Le rapport entre le corps et les performances corporelles et performances mentales, symboliques, qu'on appelle pompeusement symboliques, mais disons mentales, voilà. Donc moi, c'est un jeu intellectuel.
Et une vocation.
Et une vocation, si on peut dire.
Jean-Michel.
Moi, c'est l'itinéraire complètement inverse. C'est-à-dire que je ne m'intéressais qu'au sport et je ne faisais que du sport. Donc j'étais athlète de haut niveau en athlétisme, moniteur de plongée, moniteur de ski. Et donc j'ai fait de la sociologie et à un moment donné, je me suis dit qu'on pourrait quand même s'intéresser sur ce qui se passe dans le sport et sur toutes les symbolisations qui passent par le corps. Et puis quand même, en réfléchissant un peu, de manière un peu réflexive sur la manière dont je m'étais investi et dans la manière dont le sport était important dans ma propre vie, j'ai eu besoin un peu d'approfondir ce problème.
Vous avez eu envie de donner une tête à vos jambes?
Oui, oui, il y avait très... Non, mais enfin, il y avait quand même de la tête, mais de la tête pas au niveau de la conscience. Hein?
La raison des sports.
L'idée du titre nous est venue d'un livre que tous les deux nous avons beaucoup aimé, apprécié, qui s'appelle La raison des gestes, fait par un historien qui a travaillé sur comment l'Église, parce que c'est dans l'Église que ça se fait, comment l'Église a codé les gestes rituels des offices. Comment les gestes de la prière, les gestes de l'offrande, etc. En se posant la question, pour comprendre comment ces gestes ont été codés, il faut savoir qui les a codés. C'est-à-dire qui a eu l'idée de coder et pour en faire quoi. Donc il y a à la fois la raison des codeurs des gestes. Donc en transposant, ça devient la raison de ceux qui ont codé cette pratique tout à fait particulière qui s'appelle le sport. Donc c'est par transposition, bon alors nous avions nos propres hypothèses, mais l'idée du titre est venue de ce livre qui pour nous était un peu un modèle du genre. Et à la fois c'était de l'histoire et de la sociologie, parce qu'à chaque fois il essayait de dire les prêtres, oui mais quel type de prêtres? Au début c'était des moines, après c'était des prêtres de ville, donc ils n'ont pas codé de la même manière. C'était quasiment de la socio. Donc on s'est dit, allons-y.
Ce livre-là montre comment l'Église impose la signification des gestes et impose la représentation des gestes. Donc c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire, bon, alors ça part sur un truc historique, on peut le raconter, il y a l'empereur d'Allemagne qui reçoit le roi Hugues Capet, et l'empereur a posé son épée sur un siège, et au moment de se séparer, Hugues Capet se précipite pour tendre l'épée à l'empereur, mais le prélat qui est là s'interpose, et lui tend l'épée à l'empereur. Si Hugues Capet avait donné lui-même cette épée à l'empereur, ça veut dire qu'il se faisait le vassal et il se mettait dans une situation de domination par rapport à l'empereur. Mais en fait, celui qui code les gestes et la signification des gestes, à ce moment-là, l'institution qui code tous les gestes, qui dit leur sens et qui impose les représentations, c'est l'Église.
Alors le titre, c'est La raison des sports, et le sous-titre, c'est Sociologie d'une pratique universelle et singulière. Il faut l'entendre comme un sous-titre oxymorique ?
Non, c'était pour dire que notre livre est un livre de sociologie. Ce qui n'est pas bon, parce qu'après tout, des philosophes auraient pu mettre la raison des sports. Bon. Donc, c'était à la fois pour bien indiquer le point de vue qui est le nôtre, et puis, on y reviendra sûrement, universel et singulière, parce que justement, le sport conquiert son universalité dans ce codage très particulier qui est le sien. Autrement dit, ce qui fait l'universalité du sport, ça peut paraître un oxymore, mais c'est justement le fait qu'il soit codé d'une manière unique et que c'est un traitement extrêmement particulier du corps. Donc ces deux faces apparemment contradictoires, pour nous, sont intimement liées.
Je reçois deux sociologues, mais si j'avais reçu deux psychologues du sport, ils auraient tenu le même discours.
Non, c'est ce que la société dit du corps et quelles sont les représentations que la société impose du corps. Si vous voulez, ça apparaît très facile tout ça, mais quand on pense à des choses par l'intermédiaire des significations que prennent les pratiques corporelles. On prend par exemple l'exemple des mains. Il y a un grand anthropologue qui a parlé des mains. Alors, vous voyez, la main droite, la main gauche. À la main droite, toutes les désignations flatteuses, hein, les honneurs, tenir droit, les prérogatives, elle ordonne, elle reprend. À la gauche, elle est méprisée, elle est réduite au rythme de sombre auxiliaire. Quand on parle des gauchers, qu'on parle des boxeurs gauchers, des dangereux gauchers.
Et ne parlons pas de l'école.
Ne parlons pas de l'école.
Jusqu'aux années 60.
L'école des années 60. Je veux dire, toute une symbolique pour dire que le gaucher, entre guillemets, c'est un anormal. Donc ça veut dire que c'est très simple, il y a deux mains, il y a des gestes, et en fait le codage sépare les fonctions des deux et donne un sens différent selon qu'on fait selon qu'on gère les pratiques avec la main droite ou avec la main gauche.
Et comme par hasard, ce que Hertz appelle la gaucherie n'existe pas au Moyen-Âge. Cette idée que la gauche n'est pas la droite vient vers le XVIe siècle, quand l'école commence à normer les comportements d'apprentissage. Donc là, on voit bien le codage social du corps qui dit « la gauche n'est pas la droite », etc.
Hertz dit « l'univers entier avait un côté sacré, noble, précieux, et c'est la droite, et un autre, femelle, faible, passif, en deux mots, un côté droit et un côté gauche ». C'est ça le codage. Hein ?
On a bien posé le sujet. Il faut dire que c'est un livre savant, c'est quoi, 10 ans, 20 ans, une vie de recherche.
J'ai calculé, c'est presque 30 ans. Comme on dit, oui. Nous avons joué en double pendant presque 30 ans,
oui,
parce que Jean-Michel arrive en 87.
Je suis arrivé en 87, j'ai commencé à faire ma thèse de doctorat d'État. La première enquête que j'ai réalisée, c'était en 1971.
Passons. Donc, c'est presque 30 ans de travail en commun, où à la fois, bon, ce qui est important de dire, c'est que dans ce livre, nous avons non seulement ajouté, mais combiné intimement, à la fois des apports, parce que chacun d'entre nous, nous avions nos propres enquêtes, nous avons eu nos enquêtes communes, et là, dans le livre, il n'était pas question de dire ça c'est une enquête SUO, ça c'est une enquête FOR, etc. C'est une enquête de sociologie du sport, point final. Mais effectivement, ça cumule, sans parler des travaux des étudiants devenus nos collègues aujourd'hui. Donc cette idée d'un travail collectif, ça nous paraissait important de le souligner. C'est presque une sorte de bilan de 30 ans à la fois de pédagogie, de recherche du sport à l'université de Nantes.
pour moi, c'est la collaboration qui m'a permis de découvrir vraiment et d'accentuer l'étude de la dimension symbolique du sport. De la manière dont j'avais été formé à partir de la statistique, en particulier à l'INSAE, je pensais uniquement les déterminants socio-économiques, c'est-à-dire les catégories socio-professionnelles. Et en fait, donc, le travail avec Charles, ça a permis de découvrir le sens, la dimension. Parce qu'en fait, finalement, un paysan n'est pas un paysan uniquement par ses caractéristiques socio-économiques, il est aussi un paysan par la manière dont il perçoit sa propre condition. Donc c'était important, je dirais en parlant du sport, d'ajouter cette dimension qui est absolument incontournable. Sans ça, on ne comprend rien. Hein.
C'est du jeu à la nantaise.
Du temps où il existait.
Le livre donc, comporte trois grandes parties. Je vous laisse le soin de prendre le temps de nous présenter chacune des parties. Donc, la première, c'est Genèse et fonction des sports.
Oui, alors pour présenter les trois parties, il faut énoncer quelques petits principes.
Ça, c'est l'introduction.
Mais c'est l'introduction qui commence.
Vous avez commencé à en parler.
Sinon, il faudra revenir à l'introduction après.
Je laisse les professeurs jouer.
Non, parce que c'est le problème que Jean-Michel évoquait tout à l'heure, c'est la difficulté, y compris des sociologues, à analyser le corps. Bon, donc il faut se dire que depuis le Moyen-Âge, tous les intellectuels qui ont pensé la société se sont servis du corps comme image. Les théologiens, les juristes, les philosophes. Alors ça donnait, la société, c'est comme un corps. Il y a une tête, il y a des jambes, il y a une division du travail, etc.
L'église,
c'est comme un corps. Donc ça, là, aucun problème pour penser la société comme un corps. Par contre, pour penser le corps fait par la société, alors là, il a fallu quasiment le génie d'un ethnologue durkheimien qui s'appelle Mauss. Donc il a fallu le début du XXe siècle, c'est quand même extrêmement, même si les philosophes quand même avaient soupçonné aussi, il ne faut pas exagérer. Mais du côté de la sociologie, il faut attendre le début du XXe siècle, que ce n'est pas un hasard si c'est un ethnologue, autrement dit quelqu'un habitué à analyser des sociétés très étranges et étrangères, notamment par l'usage du corps, les rituels, etc., pour se dire, mais là il y a le corps n'est pas qu'une image. Le corps, il est fait par le social, il est fait par les traditions, il est fait par la culture. Qu'est-ce que c'est ? Bon. Et de proche en proche, donc il a inventé une notion qui est géniale, qui s'appelle les techniques du corps. Et puis les sociologues ont continué à travailler, à peaufiner un petit peu, pour arriver à cette idée qu'aujourd'hui, non seulement la société forge le corps, bon, on trouve ça chez Foucault aussi, on peut rêver, mais c'est que les individus se forgent, se fabriquent, se construisent comme individus sociaux par le corps. Juste un exemple très simple pour expliquer aux gens, parce que ça, justement, c'est un principe qui peut paraître très abstrait, dans l'éducation des familles. Bon, comment ça se passe ? Est-ce que, alors, les parents peuvent faire des discours, faire, comme on dit, des leçons de morale à leurs enfants ? Mais qu'est-ce qui se passe la plupart du temps ? Pendant le repas, c'est « tiens-toi droit, regarde-moi dans les yeux, t'es pas franc ». Autrement dit, l'éducation, plutôt que par discours, etc., le plus souvent inefficace, cause toujours, c'est de dire, tiens-toi, modifie-toi. Autrement dit, la morale, l'éducation, la vision du monde se fait par le corps. Alors, on appelle ça l'incorporation du social, c'est-à-dire le social, on l'apprend par corps. Bon, alors ça, c'est ça a été la grande idée de Bourdieu. Bon, donc là, à ce niveau-là, on est des tout à fait disciples de... Mais pour comprendre, parce que si le social nous rentre par le corps, hein, ben, les trois entrées, c'est comment le social rentre-t-il par le corps quand on s'intéresse au sport. On pourrait s'intéresser à tout autre chose. Donc voilà. Première partie, ça rentre par les institutions. Deuxième partie, ça rentre par la pratique du sport lui-même. Et troisièmement, ça rentre par les codages nationaux du corps.
Jean-Michel Faure et Charles Suot, professeurs de sociologie à l'Université de Nantes, auteurs de La raison des sports, sociologie d'une pratique universelle et singulière, paru aux éditions Raison d'agir, sont les invités de Pearl Harbour.
Pour comprendre les trois parties, il faut comprendre le principe de base, alors, qui est peut-être un petit peu compliqué dans l'introduction, mais c'est important de l'expliquer.
On peut se lancer maintenant dans la déclinaison des trois grandes parties.
Maintenant, on peut y aller. Oui.
Bon, donc sur la première partie, Genèse et fonction des sports. Comment on peut présenter cette partie de manière à intéresser le lecteur, qui va se précipiter.
Bien sûr, il va se relever.
On tenait à montrer quelles étaient les ruptures de ce qu'on appelle les pratiques sportives avec toutes les pratiques antérieures qui l'ont précédée. Et en fait, ce qu'on tenait à cerner, c'était le lieu de la genèse de ces pratiques et comment, à l'intérieur de ces institutions particulières, ces pratiques avaient été formatées, organisées, etc. Et donc, ce qui nous a amené à nous intéresser de manière très, très précise à l'histoire anglaise. Et au lieu précis où ces pratiques ont été créées, inventées, tout ça. Dans ces institutions singulières qui s'appellent les public schools, qui n'ont rien de public, puisque c'était des institutions privées aux membres des classes dominantes. Et ce qui était très intéressant dans cette démarche, c'est que de montrer comment, à l'intérieur de ces publics rouges, se forgeait un esprit de corps, c'est-à-dire, en fait, en quelque sorte, une conscience de classe des classes dominantes anglaises, qui ne s'est jamais démentie. C'est-à-dire, c'était leur création, leur institution, et ça a perduré sous cette forme-là. Donc c'est ça qu'on a montré dans cette première partie, essentiellement.
Et alors, il y a une autre idée qui est très présente dans la première partie, qui contredit une idée un peu spontanée qu'on entend souvent. C'est-à-dire, l'idée, c'est à l'origine, le sport était pur, c'était le sport, et puis cette pureté, c'est alourdi, parce que l'économie est arrivée. Autrement dit, le sport aurait été pur à son origine et ce serait libéré. Au contraire, ce serait entaché, en quelque sorte, de tous les péchés du monde, de l'économie, de la violence, au fur et à mesure. Si on regarde l'histoire, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que, justement, si on part de cette idée que le sport, c'est une voie par laquelle, justement, le social rentre via le corps, rentre dans la pratique sportive. Bien, si on regarde le sport fin du 19e, début, bon, alors il y a l'Angleterre, mais si on regarde la France, on accroche au sport plein de fonctions, d'attentes qui n'ont rien de sportive, à commencer par former des soldats. Former un soldat, aller tuer du Prussien ou de l'Allemand, c'est pas spécialement... Or, le sport, par la gym et puis les sports modernes, etc., à l'origine, donc fin du 19e, début du 20e, voilà ce qu'on attend de la pratique sportive. Autrement dit, la pratique sportive est complètement enchâssée, si je puis dire, dans des attentes politiques, sociales, après la religion. On peut faire plutôt l'histoire inverse. Comment ce qu'on appelle l'autonomie, l'amour du sport pour le sport, c'est une construction sociale extrêmement difficile, si tant est qu'elle soit, qu'on l'ait atteinte aujourd'hui, qui se fait progressivement après. Et donc, là, on s'est intéressé à comment l'école s'est intéressé au sport, mais pour coder scolairement le sport. Comment l'Église s'est intéressée au sport, ne s'y est pas intéressée d'ailleurs, mais justement pour... le coup de la bicyclette. Justement, l'Église avait béni la bicyclette, mais condamné le vélo. C'est-à-dire la bicyclette du vicaire qui sort avec ses jeunes, très très bien, etc. Mais le vélo du Veldiv, ces animaux qui tournent en rond, etc., ces machines modernes, là, à la condamnation implacable, y compris par les jésuites, tout le monde s'y est mis pour condamner le vélo.
Merci à Jean-Michel Faure et Charles Suot, professeurs de sociologie à l'Université de Nantes, auteurs de La raison des sports, sociologie d'une pratique universelle et singulière, paru aux éditions Raison d'agir, pour leur libre participation à ce numéro de Pearl Harbor, réalisé avec les complicités de Yann Le Taïron, Alice Bonamy et Laurent Messager.